France Inter. Elle est assise dans son salon, elle se tient droit, elle regarde bien la caméra, le parquet blond, la lumière fond, les murs sont blancs, les cheveux argent, les mains jointes et les jambes croisées, c'est calme, c'est élégant, posé. Elle dit voilà, regardez-moi, c'est moi et c'est mon nouveau moi, celui que j'ai toujours porté, coincé, caché dans le corset. Un uniforme à la papa, j'ai joué les mecs, j'ai performé. Petit, j'ai voulu être pompier, les cases, je les ai toutes cochées. Je me suis mariée, j'ai fait du blé et mes gamins, je les ai élevés. J'ai été sage, j'ai pas moufté. Maintenant, je veux juste être moi, j'ai bien bossé, je crois que j'ai le droit. Elle est au centre de l'image, elle n'a plus envie d'être sage. Elle parle sans doute après l'orage et elle nous parle depuis la marge.
En marge. Julia Foyce sur France Inter.
Hi there. I'm so happy to introduce you today with the new me called Françoise. You know what? In fact, it's the same person. It's just a new costume. It's just a new way of being. But it's actually even deeper me and happier me. And I would be so happy if you could just relax into it. Accepted, and in the future, I hope I can be of as much assistance as I've been trying to be for you in the past 20 years that you've known me at Be The One. And so I hope we see each other very soon. Thank you for looking at this video. Take care. Bye.
Bonsoir, bienvenue Françoise Bouillet.
Bienvenue, merci, merci.
Assise dans le salon, les jambes croisées sur parquet blond, c'est vous ? Pouvez-vous nous dire ce qu'on vient d'entendre là ?
Alors ça, je pense que c'est le texte d'une vidéo que j'ai envoyée à tous mes contacts professionnels il y a 4 ans de ça.
Ça fait combien de personnes à peu près ?
200 000 personnes dans le monde.
Ok.
Ouais, ça faisait un paquet de gens. Et j'avais besoin en fait de couper court à des ragots qui circulaient. Parce que dans ma vie privée, j'étais déjà plutôt en féminin. Et dans mon boulot, j'étais en mec. Et donc j'ai voulu dire aux gens ce qui m'arrivait, ce qui se passait. Et puis surtout les tranquilliser. Et d'où l'importance d'une vidéo en fait. Parce qu'un texte, on peut éventuellement trafiquer le texte. Une vidéo, on voit la personne, on voit ses expressions. On voit si le sourire est sincère et authentique. Et donc d'où cette vidéo que j'ai envoyée.
Vous avez l'air d'un ciel serein après l'orage, je dirais. Comment est-ce que vous vous sentiez exactement ce jour-là ?
Ah, moi, j'étais très sereine. Après, je sens une certaine responsabilité chez moi d'expliquer de façon acceptable, entendable, ce qui m'arrive. Parce que je sais que beaucoup de gens ont des difficultés avec ça. C'est compliqué. On le comprend pas bien. Moi non plus, d'ailleurs, je le comprends pas vraiment. Mais en tout cas, je le vis avec beaucoup de bonheur. Et donc, j'ai envie et besoin de transmettre ça aux gens. Et s'ils le comprennent, j'ai fait bien mon job. S'ils le comprennent pas, c'est embêtant. Et certaines personnes le comprennent pas, évidemment.
Vous avez fait une longue et belle carrière au sein du groupe LVMH. Au moment où vous faites ce coming out, vous y êtes cadre dirigeant. Aujourd'hui, vous faites du conseil en entreprise autour du bien-être au travail, concept dont vous êtes l'une des pionnières en France. Hein. Au regard de votre parcours personnel, ça veut dire quoi, se sentir bien en entreprise ? Ça veut dire pouvoir être ce moi plus profond, plus heureux, quel qu'il soit ?
Dans l'histoire du bien-être au travail, en fait, j'ai été obligé, c'est en 2008, d'amener des études canadiennes qui démontraient, c'est quand même assez incroyable, qui démontraient que quelqu'un qui est bien dans son job est plus efficace dans son job. Mmh. C'est
On peut imaginer.
Mais en fait, les gens avaient besoin d'avoir des études.
N'est pas obligé d'aller au boulot en se flagellant avec du barbelé.
Exactement. Okay. Donc, mais les gens avaient besoin d'études pour m'écouter, pour le croire, et c'est comme ça que c'est parti. Donc évidemment, on est beaucoup plus, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus intéressant quand on est bien dans son job, quand on est bien dans
Et aujourd'hui, ça veut dire plus d'inclusion, plus de diversité, le droit à être qui on est, qu'on soit binaire ou non binaire, qu'on soit cis, qu'on soit trans, qu'on soit homo, qu'on soit hétéro, ça porte sur ces thématiques-là aussi.
Oui, ou qu'on ait une couleur de peau différente, ou qu'on porte un handicap, ou qu'on soit d'une religion différente, ou etc., etc. C'est évidemment, tout cet accueil de la différence, c'est vital, parce que je crois, moi, profondément, et je ne suis pas la seule, qu'en fait, la vraie richesse, elle est dans la différence. D'avoir des clones, c'est pas très intéressant dans une équipe, et donc c'est la différence, c'est aller chercher ce qui fait vraiment les particularités de cette différence, qui amène la richesse, qui amène un autre regard, qui amène d'autres idées, qui amène une autre façon de regarder, qui fait que du coup, l'équipe, elle est beaucoup plus puissante.
Quatre ans après ce coming out, vous voici avec nous en studio. Vous connaissez l'émission, je crois, Françoise.
Oui.
Alors le voilà, le moment du miroir. Le voilà, ce fameux miroir. Prenez-le, s'il vous plaît. Prenez
Merci.
Surtout le temps de vous regarder. Que vous dites-vous?
Moi, je me dis que j'ai une chance inouïe, mais inouïe dans la vie, de pouvoir vivre ce que je sens profondément, quelque chose qui est aligné avec moi. Voilà ce que je sens, je rends grâce.
Quel rapport Merci. Est-ce que vous avez avec vous-même?
Cette gratitude que j'ai, pas seulement envers moi d'ailleurs, envers moi aussi, parce que c'est un boulot, c'est une recherche, et la recherche produit des résultats absolument extraordinaires, une euphorie peut-être, et gratitude envers tous les autres qui, comme toi aujourd'hui, qui m'accueillent ici dans ce studio, comme les auditrices, les auditeurs qui nous écoutent. Gratitude envers tout le monde.
Est-ce que vous pourriez vous décrire?
Alors, moi je peux me décrire au-delà du physique. Je vois peut-être quelqu'un qui vit sa vie, qui a pris des risques, parce que c'était vital, c'est comme ça que moi j'ai besoin de vivre, et qui en a eu les fruits et qui a eu la chance d'être entouré, qui a eu la chance d'avoir une éducation qui lui a permis d'avoir ça.
Est-ce que votre rapport à votre propre reflet a changé depuis votre coming out?
Alors,
vous ne regardez pas beaucoup, hein, vous regardez ailleurs.
Oui, parce que moi, je me connais. Moi n'est pas dans le miroir. Il est plus vaste que ce miroir, bien entendu. Et il est plus vaste que l'enveloppe physique que j'ai. Et donc je peux regarder mon image physique, mais je vois que ça va bien au-delà. Voilà.
Est-ce que le coming out a changé quelque chose dans votre rapport à votre reflet?
En fait, moi, j'ai travaillé dans la mode depuis 35 ans, donc j'ai l'habitude de travailler le sens qu'on donne avec la façon dont on s'habille, la façon dont on se présente aux autres. Donc c'est clair que avoir une expression de genre féminine en femme donne beaucoup plus de possibilités d'expression que celui d'une expression de genre masculine. Et donc du coup, ça m'a beaucoup amusé, ça continue à m'amuser beaucoup, de jouer avec tous les codes féminins et puis de m'amuser. Oui, vraiment, c'est un amusement, une gaieté.
Ni homme, ni femme, ni cis, ni trans, vous vous définissez comme non-binaire, sorti des cases, affranchi des codes. Françoise Bouillet, la vie est un long chemin pour s'en libérer. Vous nous raconterez le vôtre ce soir, notre balade en marge, c'est avec vous qu'on l'a fait, et avec l'Escope sur France Inter.
Dans un été suffocant, parfois il se lève tôt, et il respire le sirocco, comme des rois fainéants affalés sur le dos. Le soleil jaune et blanc s'écrase sur leur peau. Comme des anges dilettants, ils font semblant d'être idiots, voyous, discrets, et ça les rend beaux. Ils parlent aux filles en criant, ils ne connaissent pas les mots qui se cachent dans leur petit cœur de salaud. À la campagne, à la ville, les beaux quartiers, les banlieues, c'est comme ça que pensent les garçons. Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs grands yeux. C'est comme ça que pensent les garçons. Ce sont des pauvres endeuillés quand ils tombent amoureux. C'est comme ça que pensent les garçons. Un jour ils meurent dans l'oubli, leurs enfants après eux. C'est comme ça que finissent les garçons. Quand un désir fou brûlant ou l'envie d'un sanglot les étreint violemment, partent en lambeaux. Un amour dévorant, troublant, cruel et beau, comme le regard d'un serpent dans celui d'un oiseau. Les anges dilettants partent toujours trop tôt, ils aiment la vitesse et l'argent, les flingues, les motos. Puis septembre arrivant, ils se brisent les os, ils se fracassent au volant de leur jeteur. À la campagne, à la ville, les beaux quartiers, les banlieues, c'est comme ça que pensent les garçons. Ils veulent ignorer les larmes qu'on voit dans leurs grands yeux. C'est comme ça que pensent les garçons. Ce sont des pauvres endeuillés quand ils tombent amoureux. C'est comme ça que pensent les garçons. toujours une main dans l'oubli, leurs enfants après eux. C'est comme ça que finissent les garçons. C'est comme ça que pensent les garçons. C'est comme ça que pensent les garçons. Quand ils tombent amoureux, c'est comme ça que pensent les garçons. Un jour une main entend l'oubli, leurs enfants après eux. C'est comme ça que finissent les garçons.
Les scopes, les garçons, c'est quoi être un garçon aujourd'hui, hier, demain? Qu'est-ce qu'on vous en a dit, enfant, Françoise Bouillet? Qu'est-ce que vous en avez compris? Comment l'avez-vous vécu? Vous nous raconterez.
France Inter, En Marge.
Vous pouvez nous dire ce qui vous vient là, à la tête ou au cœur?
En fait, je jouais ce morceau, j'étais petite, et puis j'ai surtout écouté, parce que je le jouais, mais j'entendais surtout des gens qui le jouaient merveilleusement bien. La sonate au clair de lune, je trouve qu'il y a une douceur et une simplicité, un accord esthétique merveilleux dans cette simplicité. Et ça me replonge dans le salon où il y avait le piano, et où je faisais 3 heures d'exercice par jour, quand j'avais 7, 8 ans, 9 ans, ouais. C'était beaucoup demandé à un petit garçon.
Ouais, c'est beaucoup. Moulure, au plafond, parquet, cheminée, l'appartement est haussmannien, en plein cœur du quartier latin. Chez vous, on vit plutôt bien, disons, au quotidien. Ça dit quoi, Beethoven, de l'ambiance à la maison?
En fait, mon père dirigeait une des principales maisons de disques dans le monde. Et donc, et je suis d'une famille qui est dans la musique. Son père était dans la musique, lui est dans la musique, moi j'écoute de la musique tout le temps, j'ai un de mes fils dans la musique, mes enfants écoutent tous de la musique. Bref, la musique c'est une histoire familiale, c'est dans l'ADN. Mmh. Et donc on écoute de la musique tout le temps. Et donc mon père écoute surtout de la musique du 18e et du 19e.
Et en dehors de la musique, c'est un joyeux foutoir parce que famille nombreuse, ou est-ce qu'au contraire on file doux?
On file plutôt doux, ouais. Un père qui est vraiment le père de famille, le provider, et qui donne le là dans l'histoire. C'est encore cette génération qui considère que ses enfants dépendent bien sûr de lui, mais aussi sont un petit peu à lui. Ouais. Donc on file doux.
Et votre mère?
Elle est plus dans le ressenti, dans des choses moins explicables de la vie. Plus ronde, elle a arrêté de travailler pour s'occuper de ses enfants. Mmh. Et elle élève ses enfants du mieux qu'elle peut.
4 enfants, famille nombreuse, famille bourgeoise, famille catholique, traditionnelle, vous diriez, à tout point de vue?
Non, pas tradie.
Non.
À l'époque, on est dans le quartier latin et il y a aussi dans le catholicisme, il y a un vent de nouveauté.
Ouais.
On a des prêtres dans l'église d'en face qui sont dans mai 68, qui sont des prêtres ouvriers, qui s'intéressent plus à la spiritualité qu'au dogme. Donc, au contraire, ça ouvre.
Ouais.
On est dans une religion où on est plus sur l'aspect de la spiritualité.
Que sur le dogme.
Que sur le dogme.
Vous êtes né, vous, en juin 57, on nage en plein dans les 30 glorieuses. Le souvenir de la guerre commence tout juste à s'éloigner, tout petit peu. Le vent du joli mois de mai n'a pas encore soufflé. Vous êtes numéro 2 dans une fratrie de 4. Comment est-ce que vous vous sentez dans cette fratrie, dans cette famille, dans ce milieu, dans cette époque, enfant?
Déjà, la fratrie de 4 est arrivée après, donc j'ai commencé à 2. Mm-hmm. Puis après, une troisième est arrivée, puis un quatrième. Moi, je découvre la vie et j'accueille ce qui m'est proposé. Je suis un enfant, je pense, assez facile. Je travaille très bien, je suis dans les arts, je fais de la cuisine, je fais beaucoup avec ma maman, mon père bosse beaucoup et est absent comme beaucoup de pères à l'époque. J'apprends la vie.
Ouais.
Et j'apprends à me mouler en fait dans ce qu'on me demande. C'est plutôt ça qui je trouvais frappant à cette époque-là.
Jusqu'à quel point?
C'est-à-dire tout ce qu'on me demande. Si on me dit tu tournes à gauche, je tourne à gauche, si on me dit tu t'habilles en marron, je m'habille en marron, si on me dit
Donc on est au-delà de l'adaptable. C'est-à-dire que c'est pour pas avoir d'emmerde. En gros, je fais ce qu'on me.
Alors, je pense que c'est pas avoir d'emmerde. Ça, c'est sûrement un truc. Me faire aimer aussi, je pense. Il y a cette chose-là, faire partie des groupes dans la cour de récréation. C'est sûr que moi, je vais faire suivre les codes des petits garçons qu'on me demande de suivre. Donc je vais être au centre de la cour. Je vais bagarrer. Je vais faire du sport, des choses comme ça.
Vous le faites volontiers ou c'est un endroit de souffrance pour vous ?
Mais je le fais parce que de toute façon je me pose même pas la question. D'accord. C'est comme ça que ça se passe et c'est construit comme ça. Donc moi j'y connais rien. Je débarque sur cette planète. Donc je fais ce qui me semble être le plus juste. Et je remets pas en cause les règles.
D'accord.
À ce moment-là.
Au fond de vous, est-ce que vous sentez qu'il y aurait une possible remise en cause ou
non. D'accord. Non, je m'en rends absolument pas compte.
Silhouette longiligne, gracile, même vous ne correspondez pas vraiment au canon du masculin, potentiellement. Ça peut être dangereux dans une cour de récré, mais vous vous en foutez, vous courez hyper vite. Et puis de toute façon, les plus costauds sont vos meilleurs copains. Malin. Vous avez 11 ans, vous faites votre confirmation à l'église et comme le veut la tradition, vous choisissez un saint patron pour vous. Ce sera Saint François d'Assise et d'ailleurs, vous changez de prénom. Désormais, on devra vous appeler François. Ça raconte quoi de vous, cette démarche-là ?
Je pense que c'est vraiment une compréhension, une prise de conscience que en fait les choses peuvent changer et qu'on n'est pas bloqué dans un rôle. Et moi j'ai voulu secouer un petit peu les choses et dire voilà, le petit garçon de 0 à 11 ans, il était comme si, très docile, il faisait ce qu'on lui demandait, sans en souffrir particulièrement, mais tout à coup il y a une prise de conscience qu'il y a d'autres choses qui sont possibles. On est à ce moment-là, on est en mai 68.
C'est ça.
Et donc du coup mai 68, tout à coup, apporte cette possibilité.
Ouais. Entre-temps, oui, la bourrasque est arrivée, les premiers pavés ont été lancés jusque sous les fenêtres de l'appartement familial. On a manifesté, Beethoven pulvérisé, vous arrêtez le piano, mai 68 est là, il vous a emmené sans tabac.
Got a black magic woman. Got a black magic woman. I've got a black magic woman. Got me so blind I can't see. That she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me.
The black magic woman, Santana. Quelle révolution ça a été, Woodstock, évidemment, mai 68, les pavés dans la rue, les CRS.
Vous avez 11 ans à l'époque, face aux pavés et aux CRS. Vous êtes un peu jeune pour les jeter vous-même, les pavés, mais comment vous vivez ces événements-là ?
Je ne sais pas trop, je suis un peu sidéré par tout ce qui se passe, mais en même temps enthousiasmé qu'il y ait des gens qui bousculent le système, la norme, parce que moi, j'ai besoin aussi de bousculer la norme dans laquelle je suis. Donc je suis emporté dans cet enthousiasme du changement, de la liberté, faites l'amour, pas la guerre. Casser les normes et porter les cheveux longs.
Vos parents, comment ils vivent ça ?
Mon père, qui est dans le business, pour lui, c'est catastrophique parce que beaucoup de choses s'arrêtent, les usines ferment, les magasins sont fermés, etc. Donc c'est compliqué. Mais bon, il vit sa vie, puis moi je vis la mienne. Donc ça va très bien, je trouve ça très enthousiasmant. Et donc j'avance.
Les années 70 amènent une fluidité des codes, une forme d'androgynie. Le masculin à la papa en a pris un coup. Et vous, ça vous va plutôt bien, non ?
Mais oui, moi j'adore, moi j'ai les cheveux longs, j'ai des pantalons à pattes d'eff serrés, j'ai des t-shirts moulants délavés à la Javel pour faire des dessins psychédéliques. Oui, il y a une liberté tout à coup d'être qui me plaît énormément.
Vous avez vos potes, vous aimez d'ailleurs vivre en tribu, vous aimez les filles aussi et pas qu'un peu. Premier baiser à 11 ans aussi, décidément drôle d'année pour vous Françoise. Hein. Premier amour quelques années plus tard, vous avez 15 ans à peine et vous dites je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Started a joke, which started the whole world crying. But I didn't see that the joke was on me.
Ça, c'est la musique, en fait, sur laquelle le premier slow avec qui j'ai dansé.
C'est
avec,
vrai, le tout premier slow.
Le premier slow avec cette femme que j'ai énormément aimée, premier amour.
Un amour passionné. Très, très fort qui a
très
duré
fort.
4 ans quand même. C'est,
ouais.
C'est rare
3,
à 15 ans,
ans ouais. Oui,
de
c'est
rentrer
ça,
dans une histoire d'amour aussi longue et aussi forte.
C'était aussi très nouveau parce que dans le quartier latin, entre les lycées, on était parmi les plus jeunes, on était un couple un peu emblématique. Et on s'adorait surtout, on découvrait l'amour, c'était merveilleux.
Et vous rêviez la vie plus tard, un mariage, des enfants, c'était ça qui se profilait ?
Bah, oui, on en parlait, même si pour moi, je ne me rendais pas tout à fait compte de ce que ça voulait dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aimais beaucoup cette personne et que j'ai eu l'impression que c'était réciproque. Mmh. Et que donc, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Ce qui n'est pas facile quand on a 15, 16, 17 ans, de se projeter comme ça, alors qu'on ne connaît rien, en fait, c'est la première fois. Mmh. Donc, c'était pas si simple à la fin.
L'histoire va doucement s'étioler avec les années. Vous grandissez, vous avez passé le bac, bientôt vous allez travailler. Avec quelle idée en tête ? Vous vouliez devenir quoi ? Vous aviez une envie ?
Moi, j'étais plutôt artiste. Je gagnais un petit peu ma vie en étant photographe. Je vendais mes photos dans les agences à l'époque et ça me payait mes voyages.
Ouais.
J'avais même trouvé des clients, des agences de voyage qui me payaient en voyage. Donc moi, j'adorais les voyages.
Ouais.
Et donc, j'ai pu voyager très, très jeune. Donc ça me plaisait beaucoup.
Sauf que votre père, ça lui plaît beaucoup
Sauf
moins.
Que mon père, ça lui plaît beaucoup moins. Et lui, il est dans le business et il veut que son fils fasse du business. Et donc, du coup, comme je reçois l'instruction et puis ça se discute pas, je fais du business.
Et donc, vous ferez, une école de commerce et l'école du Louvre en parallèle pour le plaisir. La voie est toute tracée, pas le choix, vous l'empruntez. Enfin, dès que vous pouvez vous bifurquer en Inde, par exemple, cette petite embardée. Qu'est-ce qu'on entend là, Françoise Bouillet ?
Donc là, on entend une musique indienne. En fait, la première fois que j'étais en Inde, j'étais pour le festival de musique de l'Inde du Sud, qui est en hiver, parce qu'il fait très froid dans le nord de l'Inde. Et donc, les musiciens se rassemblent dans le Sud. Et il y a pendant un mois, tous les meilleurs musiciens de l'Inde qui sont là. Et donc, moi, amoureuse de la musique et amoureuse des voyages, c'était ce premier voyage en Inde, un voyage initiatique d'un petit mois sur place à écouter.
Qu'est-ce que vous ressentez ? Parce que je crois que juste avant, il y a eu un voyage en Grèce.
Oui.
Vous étiez géo au Club Med.
C'est ça, oui.
Et c'est à l'extérieur plutôt du Club Med que se produit le choc. Qu'est-ce qui se passe pour vous quand vous êtes à l'étranger, que vous ne vivez pas quand vous êtes à Paris ?
La découverte, la curiosité de l'autre. J'ai une passion pour ce qui se passe dans l'autre et pour comprendre, essayer de toucher, de ressentir des choses différentes. Et donc le voyage permet ça. C'est comme une addiction d'ailleurs. On va chercher le bonheur ou la surprise ou l'intensité peut-être plutôt. L'intensité de la vie en découvrant des façons de vivre qui sont complètement différentes.
Et est-ce qu'il y a en Grèce ou en Inde une façon de vivre le corps ou l'intime ou le genre différente de ce que vous aviez connu jusque-là, qui peut-être vous parle plus ?
Il y a tellement de choses différentes que probablement, mais après je ne m'en rends pas compte à ce moment-là. Je ne me rends pas compte, par exemple, de ces éléments-là. Je n'ai même pas conscience d'ailleurs de ce qu'est le genre à l'époque. Je ne sais même pas ce que c'est.
Vous rentrez à Paris, vous poursuivez vos études de commerce. Elles ont un avantage quand même, c'est qu'elles vous permettent les échanges et les stages. Et donc que votre soif de l'ailleurs s'étanche encore et encore. Vous partez notamment aux États-Unis et vous passerez une semaine entière à la bibliothèque de Berkeley. Qu'est-ce que vous cherchez au fond ?
Donc à Berkeley, oui, c'était très, très particulier cette expérience. J'étais en stage là, à San Francisco. Et en fait, à l'époque, je voyais bien qu'il y avait plein de libertés possibles que je ne comprenais pas et je voulais explorer. Et en fait, dans les bibliothèques, ce que je trouvais, c'est le rayon ethnologie. J'ai été biberonné et je pense que probablement mon goût des voyages il vient aussi de Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss et son Triste Tropique, écrit par sa femme d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et en tout cas, cette ouverture vers le monde me fascine et donc je vais dans les rayons ethnologie des bibliothèques. Et donc à Berkeley, qui est une bibliothèque très particulière, où en fait, on ne vous donne pas les bouquins en bas, mais on vous autorise à aller dans les rayons. Je m'installe dans les rayons pendant une semaine et je scanne tous les bouquins. J'ai développé une technique de scan ultra rapide de livres.
De scan humain ?
De scan, avec mes yeux.
Ouais.
Et en fait, donc, je découvre 15 millions de choses et je reste passionné.
Qu'est-ce
dans
que
cette
vous
bibliothèque.
Retenez ? En quoi est-ce que ça vous construit ? En quoi est-ce que ça vous fait avancer sur vous-même ou sur cette problématique du genre, en fait ?
Ce qui est passionnant dans l'ethnologie, c'est qu'on découvre qu'il y a des groupes humains qui vivent avec des repères et des normes qui sont complètement différentes de celles qu'on a, nous. Et donc, ça permet de relativiser les normes qu'on a, nous, et ça permet aussi de s'en libérer. Donc de voir des gens qui vivent de façon très 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 différente, et sur le genre aussi. Et voilà, je suis fasciné par ces tribus d'Amérique dans lesquelles il y a une multiplicité de genres, où les garçons et les filles sont éduqués de la même façon, jusqu'au jour, peut-être au moment de la puberté, où on leur propose de choisir un des 5, 6 ou 7 genres que la tribu respecte, et l'enfant, l'adolescent choisi, il est ensuite accueilli dans une cérémonie comme un être adulte qui a un genre bien particulier. Oui, des choses comme ça, ça m'a ouvert l'esprit énormément, et je me suis rendu compte qu'en fait notre système binaire, évidemment, il était très limité. Je m'en suis rendu compte très vite et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que moi je resterais dans ce truc binaire?
Et alors vous allez continuer à chercher, interroger, fouiller, sonder, questionner, interpeller, demander. Un jour, plus tard, quand vous serez grand, à 45 ans, vous trouverez.
Wait, make I come out my dress. Na Shakara. You see, enough you do nothing. Na Shakara Aloje. We got this song for them. We just sing them like this. You go say, Babalaya, ah, Ironio, Collegia, O Jello, yo, Killa Shake, Shakara woman. Tell her, say, my dear, I like you. She go say, you like you? Who you like? Come on, Jari. Look at this man. Where you come from, Seth? I be me and you. Not touch me, oh. Ah, you see, she won't do. Now, Shakara, they call her Shakara Loji. We get a song for them. They sing them like this. We go say,
Fela Kuti avec ce titre Shakara. Pourquoi cette chanson-là, Françoise Bouillet?
Je sais pas, je crois que c'est l'un des premiers albums que j'ai découvert de Fela. C'est l'époque où c'est le tout début de la world music, tout le monde de la musique commence à s'intéresser à ce qui se passe dans le monde. Et Fela Kuti débarque comme une bombe. Et ce qui m'intéresse chez Fela, c'est que c'est quelqu'un qui non seulement est un musicien extraordinaire, mais surtout qui porte un message. et surtout qui se bat dans son propre pays, le Nigeria, contre la corruption endémique, contre le système d'oppression de toutes les minorités, et qu'il utilise la musique comme un moyen de porter cette parole justement politique. Et donc il a les deux. Et puis évidemment c'est un particulier, Nigeria, moi je connais pas, et donc je découvre l'Afrique grâce à lui. Et puis
voilà, aujourd'hui vous connaissez beaucoup mieux, mais on va pas spoiler, on en parlera un petit peu plus tard, François, s'il vous plaît.
D'accord.
Juste avant Fela Kuti, vous entriez en école de commerce, loin devant nous. Il y a ce coming out non binaire fait il y a 4 ans, et le masculin et sa panoplie foutue aux orties. De l'hypercentre vers la marge ultime, on vous suit, Françoise Bouillet, jusque dans le ventre du palace, jusque sous la boule à facettes.
France Inter, En Marge, Julia Foyce.
I got my mind made up, come on, you can get it, girl, anytime, tonight is fine.
Françoise, vous êtes chez vous, vous prenez le micro quand vous voulez.
Super.
Ah, ça, là, vous êtes où?
Là, je suis sur la piste du palace. En train de danser.
Alors, c'est Instant Funk. Cette chanson-là nous catapulte à la toute fin des années 70. Le club parisien mythique connaît son apogée. Vous en êtes évidemment, Françoise. Quel souvenir vous gardez de ces nuits-là? À part l'envie de danser. Magnifique.
Bah, c'est énorme, l'envie de danser et de danser toute la nuit. Et en fait, c'est au tout début. Fabrice Aymer vient d'ouvrir le palace après avoir eu le set qui était aussi un énorme succès. Il y a Guy Cuevas au platine qui apporte le funk et le des États-Unis, et tout à coup on a une musique ultra dansante et qui fait qu'on danse des heures.
Alors vous avez la petite vingtaine, qu'est-ce que vous diriez de vous à l'époque, de vos aspirations, de vos peurs, de vos rêves et de cette fameuse panoplie du masculin à l'époque? Vous vous situez où, comment?
Je sais pas, très bien, j'ai un costume, on était une bande de trois potes et on arrivait en smoking. Avec t-shirt blanc et cheveux gominés, donc on était habillés en mec en fait.
Ouais.
Mais c'était un look un peu particulier, lunettes noires. Moi je pensais pas au genre, je pensais à la liberté qu'on avait tout à coup d'être là. Et puis on retrouvait évidemment beaucoup de gens. La physionomiste nous repérait à 200 mètres.
Jenny Beller qu'on a reçu ici évidemment.
Voilà, et on nous faisait passer. Devant tout le monde, on payait une fois sur je sais pas combien, et on s'amusait et c'était libre.
Vous,
il y avait plein de
entrées,
gens,
quoi.
Plein de gens qui étaient aussi très différents dans le palace. C'était que des gens très créas. C'était avant l'arrivée des touristes qui venaient parce qu'on leur avait dit qu'il se passait quelque chose au palace. Et donc il y avait des gens très authentiques. Et je pense que c'est peut-être ça qui m'a beaucoup intéressé.
Et puis à la nuit, on peut repousser les limites aussi. De qui on est un peu plus, on est plus libre, vous le disiez, mais on est les frontières s'émoussent un peu, les codes s'émoussent un peu.
Oui, bien sûr. Et puis la danse, on est, enfin, dans la danse, voilà, moi je me suis complètement laissé aller dans la danse à fond, et avec cette musique extrêmement rythmée, comme on l'a entendu, et qui était très nouvelle, on était très enthousiaste et on pensait pas à autre chose.
À 26 ans, vous vous mariez. Alors pour quelqu'un qui aime tant la liberté, il peut y avoir quelque chose de contradictoire en apparence dans ce choix. Pourquoi est-ce que vous le faites?
En fait, il y a une histoire d'amour qui est là et qui demande qu'à se développer.
Mais le mariage a quelque chose d'un peu bourgeois par rapport à qui
bien
vous êtes
sûr.
Parce qu'à l'époque, vous êtes encore dans ces codes-là?
Je suis au milieu, en fait, parce que je viens de passer 3 ans dans le montage d'une affaire particulière dans le bambou à Hong Kong et puis dans le reste du monde. Et donc, en fait, je suis déjà dans l'organisation. Je vais plus au palace. Le palace est devenu un endroit pour touristes et j'y vais plus. Et puis, surtout, je suis ailleurs. Et donc, du coup, les choses se structurent petit à petit
pour
moi.
Adulte,
je grandis,
quoi.
Je suis un adulte.
Ouais.
Je suis un adulte. Et puis, il y a cet amour qui est là, qui, voilà, on a envie de construire des choses et, voilà, ce qui se propose, c'est peut-être plus, dans ma famille aussi, le mariage, c'est important, dans la sienne, c'est aussi important.
Et puis à l'époque, ça se questionne pas.
Et puis à l'époque, ça se questionne pas, non. Mmh. Voilà. Après, on est ensemble, mariés, pas mariés, mariés, il y a un engagement. Et je trouve que c'est aussi un bel engagement. Mmh. Alors, il se trouve que ça porte le nom de mariage dans notre culture, il y a d'autres formes d'engagement dans d'autres cultures.
Vous avez tenté, vous le disiez, de monter une affaire dans le bambou et les matériaux soutenables à Hong Kong, mais elle n'a pas marché. Or, il faut bosser. Bah oui, vous êtes un adulte, hein, Françoise. Gagner sa vie, payer le loyer, votre point de chute naturel avec les études que vous avez faites, c'est le marketing et même les papes du marketing. Votre père est soulagé. Mais vous, pour quelqu'un qui a pris ses distances avec le matériel en Inde, qui commence à se dire, en fait, tout ça, c'est pas vraiment l'important. Pour quelqu'un qui a fait des recherches en anthropologie, quelqu'un qui est artiste comme vous l'êtes, quelqu'un qui aura envie de partir loin de tout ça, vous retrouvez donc, paf, marketing. Est-ce qu'il y a une forme de dissonance cognitive en vous à ce moment-là ?
Alors en fait, ce premier job que j'ai pris en revenant en France, parce que j'arrivais pas à trouver, j'avais 22, 23 ans, j'avais pas trouvé de financement pour mon affaire de bambou à Hong Kong. C'était les banquiers français me regardaient de façon un petit peu bizarre. En fait, j'étais ce qu'on appelle chef de zone export, donc j'avais la responsabilité de l'Europe. Mmh. Et donc je me baladais dans toute l'Europe pour vendre et marketer donc les produits de l'entreprise pour laquelle j'étais. Donc j'étais en voyage quasi permanent en fait. Et donc c'était ça le compromis.
Ouais. C'était ça l'intérêt du truc, ouais.
C'était ça l'intérêt du truc.
Alors, effectivement, ça va continuer, parce que toute votre carrière, vous la ferez dans la mode et dans le luxe, donc la fenêtre sur l'ailleurs reste grande ouverte, et vous n'avez pas 30 ans quand vous retrouvez votre épouse et vous-même sur la planète Mars. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Ça, c'est un ami japonais qui s'appelle Yasukaze, qui est un musicien japonais qui a beaucoup étudié la percussion, les musiques du monde. Donc, il est l'un des pionniers de la musique du monde au Japon. Il est aussi, d'ailleurs, le musicien qui a fait toutes les musiques d'un groupe de buto qui a été probablement l'un des plus grands groupes de buto au monde, qui s'appelle Sankaijuku, un immense personnage qu'on a beaucoup pu voir en France parce qu'il était représenté par le Théâtre de la Ville. Donc ça, c'est Yasukaze qui fait cette musique. Et donc, on est au Japon, mais...
Et c'est la planète Mars, au moment où vous arrivez.
Et c'est la planète Mars. Je pense, je ne connais pas, moi, de culture où je me suis senti plus loin en arrivant que le Japon. Je n'arrive pas à trouver d'autres endroits. Donc, tout ce qui est là est en apparence très différent. On ne comprend pas les logiques. Et ça me plaît énormément.
Cette différence-là.
Mais voilà, moi, je cherche les différences. Comme on le disait au début, pour moi, la richesse, elle est dans la différence. Donc, trouver des différences, pour moi, c'est merveilleux. C'est comme...
Quoi, par exemple ?
Sur la façon d'être, sur la façon de relationner avec les autres, sur la relation avec la vie, avec la spiritualité, avec la nature.
Et sur la façon d'être un homme ou d'être une femme aussi ?
Alors oui, les rôles au Japon sont assez différents des nôtres. À mon avis, même si on voit des Japonais, des samouraïs extrêmement masculins, macho, qui parlent avec une voix très très forte, etc. À mon sens, le Japon est un matriarcat, en fait. Mmh. Ils sont vraiment les femmes qui dirigent en fait la société en sous-main. Donc il y a un rôle qui est, il y a des rôles qui sont complexes, différents, et ça m'intéresse.
À ce moment-là, puisqu'on se parle de performer le masculin, parce que c'est aussi une performance, comment vous le performez, vous, quand vous arrivez sur cette planète Mars ?
En fait, le fait d'être dans une ambiance différente, décalée par rapport à ma propre culture, me donne un degré de liberté évidemment énorme, parce que les gens qui sont en face de moi, les Japonais et les Japonaises, ne connaissent pas forcément exactement nos codes, et donc moi je peux jouer avec les codes, Trouve que en plus je travaille dans la mode, donc je peux m'habiller un petit peu de façon comme je souhaite.
Donc vous n'êtes plus obligé de jouer au bonhomme, c'est ça ?
Si, parce que malgré tout je suis chef d'entreprise, une entreprise qui marche très bien, qui est très connue sur place, donc si, je suis obligé de tenir ce rôle.
Dans l'entreprise, mais dans la rue,
en fait, je bosse tout le temps et donc c'est difficile d'avoir deux rôles. Et puis la vie sociale est très intense et elle est aussi liée au boulot. Donc en fait, j'ai pas beaucoup d'espace de liberté d'expression, si ce n'est avec mes amis comme Yasukaze, le musicien, ou d'autres artistes.
Donc ça veut dire que le caméléon est de retour, quoi.
Le caméléon est toujours là.
Ouais. Et jamais parti.
Non, le caméléon n'est jamais parti, mais il est toujours là, même en 2024.
C'est vrai.
Oui.
Votre fille et puis vos deux garçons vont naître là au Japon. Est-ce qu'avec eux vous ressemblez au père que vous avez eu, ou est-ce que là aussi vous cherchez une forme de différence ?
Bien sûr, une forme de différence. Et bon, je sais trop que souvent les choses qui nous ont fait souffrir, on essaie de faire exactement l'inverse avec ses propres enfants. C'est probablement, peut-être inconsciemment, ce que j'ai fait. Je me sens extrêmement proche de mes enfants. Je suis émerveillé de voir que la vie continue. Ça change ma perspective de vie, ma spiritualité. J'adore mes enfants. Voilà, j'essaie d'être le plus présente possible, même si je bosse beaucoup, parce que non seulement au Japon on travaille beaucoup, mais en plus de ça, quand on dirige des entreprises qui sont en forte croissance, il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup de portes, voilà. Donc je suis le plus présent possible, mais mes enfants se souviennent pas d'un père absent, en fait.
Contrairement au vôtre.
Contrairement, là-dessus,
vous avez réussi. Vous y passerez en tout 7 ans, et puis toute votre famille rentre en France. Enfin, vous pas totalement, hein, tous les 2 mois, il ne faut pas déconner quand même. Pendant 17 ans, vous y retournerez, parce que vous le devez, parce que vous prenez de grandes responsabilités dans le groupe, et parce que, d'ailleurs, encore, toujours, vous y tenez. Il va prendre une nouvelle forme pour vous, cet ailleurs. Les années 90 nous ont apporté Internet, et puis bientôt la DSL, et puis bientôt l'accès à l'information en illimité.
Cette intensité là dans cette musique là, tout à coup c'est d'une richesse, tout est mélangé, ça vient de partout. Et je trouve que ça illustre bien cette période où tout à coup le monde s'ouvre, on a l'impression qu'on a accès à tout, qu'il y a plein d'informations qu'on n'avait pas de l'autre bout du monde qui sont disponibles.
Vous avez 40, 45 ans quand Internet déboule chez vous, comme chez tout le monde.
Oui.
Ça change quoi très concrètement pour vous ?
Ben, ça change évidemment dans ma façon de travailler, mais ça change aussi dans ma vie privée. Tout à coup, j'ai accès à plein d'informations. Et moi qui suis boulimique sur l'info, donc je suis pas dans les couloirs de la bibliothèque de Berkeley, mais je suis devant mon écran à fouiller tout ce que je peux trouver. Et je peux passer des heures et des heures à chercher.
Et vous découvrez quoi ?
Et je découvre à ce moment-là que peut-être une de mes recherches sur cette liberté d'être, cette façon de vivre, peut-être elle est liée au genre, et qu'il y a des gens qui le vivent eux aussi et qui parlent sur Internet. Et tout à coup, je me rends compte qu'il y a d'autres gens qui en fait vivent la même chose que moi, ou des choses très similaires. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est cette personne qui raconte sa vie, mais elle parle
c'est
de
moi.
Ma vie.
C'est-à-dire que tout à coup, il y a des modèles, enfin, il y a des échos.
Il y a des échos, ouais.
Et donc, il y a des possibilités qui s'ouvrent pour vous.
Ça devient sérieux dans le sens où c'est pas juste, moi, une lubie que j'ai dans mon coin toute seule.
Ça s'incarne.
Voilà, il y a des gens, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de fréquent, c'est quelque chose qui arrive dans plein d'endroits, dans l'histoire, mais aussi à l'époque où on se parle, il y a des tas de gens qui vivent ça et qui essayent de comprendre ce qui se passe et qui essayent de surtout trouver un moyen de le vivre de façon plus épanouie.
Les temps changent, les esprits s'ouvrent un peu, les enfants grandissent, ils quittent la maison, vos envies de liberté, votre besoin de liberté prend de plus en plus de place, votre féminin doit respirer, sinon vous allez exploser, du moins c'est comme ça que vous le vivez. Comment le vit celle qui partage votre vie depuis près de 30 ans ?
Elle ne le vit pas très bien, malheureusement. Elle ne le vit pas très bien, et donc du coup, on décide de se séparer. Mmh. Et voilà, on se sépare, et
vous
chacun reprend
ans.
Sa liberté, c'est ça.
Vous divorcez. Ouais. Sans enfant dans les pattes, sans épouse à rassurer, vous avez toute la latitude pour être qui vous êtes. C'est le moment où, en privé, vous décidez d'assumer, à partir de là, votre expression de genre, c'est-à-dire votre allure, vos vêtements, le pronom que vous utilisez pour le dire vite, hein, que vous utilisez pour parler de vous devient féminin. Qu'est-ce que vous y gagnez ? Une sérénité, une liberté, la paix ? Quoi ? Il se passe quoi quand vous n'avez plus à performer le masculin et qu'au contraire, vous pouvez exprimer ce féminin ?
Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que c'est très fin, mais c'est très important. C'est qu'évidemment, moi, j'ai beaucoup moins de limites, donc je peux exprimer toutes les valeurs que j'ai, c'est-à-dire à la fois les valeurs masculines qui me tiennent aussi tellement à cœur, mais aussi des valeurs, toutes les valeurs masculines, le courage, l'action.
La valeur dite masculine, le courage.
La valeur dite masculine, on est bien d'accord.
On est
sur les valeurs dites masculines. On est dans le stéréotype des jeux de rôle, donc il y en a deux.
Okay.
Et quand on est garçon, on vous assigne à ça, puis quand on est fille, on vous assigne à la douceur, l'empathie, etc., etc. Et qui sont évidemment des choses faites par la société, donc c'est pas complètement artificiel, c'est le fruit de l'histoire, c'est le fruit de plein de choses, mais sauf que c'est des choses qui ne sont pas dans la nature de ce qu'on est. Donc tout à coup, moi, je peux vivre ma nature plus pleinement, sans me soucier, ou en me souciant moins, de ces barrières construites par la société. Et donc, du coup, je m'épanouis. Et d'ailleurs, je m'épanouis dans mon féminin, bien sûr, mais je m'épanouis dans mon masculin, enfin, ce qu'on appelle le mon masculin, à tel point que beaucoup d'amis me disent, mais en fait, tu n'as jamais été aussi masculin que maintenant. Et en même temps, je n'ai jamais été aussi féminine que maintenant. Donc, c'est comme s'il y avait une richesse qui sort, un épanouissement, une ouverture pour moi.
Comment le prennent vos enfants?
En fait, quand je leur ai annoncé, que j'avais beaucoup de féminin en moi, que je pouvais pas vraiment, je voyais pas l'intérêt de le garder, enfin je pouvais pas le garder caché. Mon plus jeune fils m'a dit à ce moment-là, mais écoute papa, c'est incroyable ce que tu nous dis, c'est comme si tu nous donnais un immense feu vert pour être qui on est vraiment dans la vie.
Pas mal quand même.
Pas mal. Hein.
Vous l'avez bien élevé.
J'étais pas seul.
Ce nouveau, oui. Chapeau. Ce nouveau moi ne passera pas par la médecine, mais par l'état civil. En revanche, si. Au moment où vous faites votre coming out avec cette vidéo dont on parle en début d'émission, vous obtenez ce changement sur vos papiers d'identité. Vous êtes officiellement Françoise et la petite lettre F a remplacé le M. Ça, ça change quoi ?
En fait,
pourquoi c'est important ?
Ce qui est important pour moi, c'est l'authenticité. Donc l'authenticité avant tout, en premier, vis-à-vis de moi-même. C'est probablement ce qui est le plus difficile, je pense. Et donc, voilà, je travaille ça, je continue à le faire, mais aussi l'authenticité vis-à-vis des autres. Et pour moi, je ne peux pas ne pas dire aux autres qui me rencontrent que je suis un mec classique, standard, que j'aime le foot et les grosses voitures. Non, je ne peux pas le dire. Donc, j'ai besoin de leur envoyer un signal parmi les possibilités qui sont ultra limitées, puisqu'en fait, on en a que deux, c'est il ou elle. Hein. Je suis obligé de leur envoyer un signal comme quoi, en fait, je suis différente. Je suis quelqu'un d'un peu différent.
F, M, les deux, ni l'un ni l'autre, vous êtes évidemment les bienvenus en marge avec ce soir à la technique Vincent Godard, à la réalisation Lucie Lemarchand, Ophélie Vivier chargée de programmation. Et ça, c'est Lana Del Rey pour nous accompagner.
Blue sky smiling at me. Nothing but blue skies do I see. Blue birds singing a song. Nothing but blue birds. All day long. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by. When you're in love, my, how they fly. In the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly.
Ben oui, ben ça parle en studio, vous commencez à avoir l'habitude. La conversation se poursuit avant, après, pendant les titres. C'était Lana Del Rey, Blue Sky sur France Inter et c'est Djoubaka qui signe notre programmation musicale. Vous en retrouverez toutes les références sur l'appli Radio France ou sur le site du même nom, ça tombe bien, à la page de l'émission, à l'endroit même où vous pouvez nous podcaster, dis donc. Et ce, sans aucune modération.
En marge. Sur France Inter.
Sont levés. Et ça danse, et ça
c'est, voilà, on retrouve la danse.
Et qu'est-ce que c'est alors ? Et on retrouve le Nigeria, je crois.
Et on retrouve le Nigeria, absolument. Et on retrouve Black Magic Woman de Santana aussi.
Et qu'est-ce que c'est alors ? Donnez-moi le titre, je m'en fous, je ne vais pas le prononcer moi parce que je vais me vautrer.
Mais moi aussi.
On va dire Ofoy Amponsa Otolegué.
Voilà, Otolegué, je pense.
C'est pas mal. Franchement, on est bien.
Ouais,
on est bien.
Pourquoi ?
C'est quoi
cette chanson-là ? En fait, c'est une musique que j'ai découverte au Nigeria où j'étais en août dernier. Et je trouve que je suis tombé amoureuse d'une femme du Nigeria en juillet et j'étais allé voir chez elle en août. Et donc voilà, et j'ai découvert le Nigeria, mais surtout la culture Yoruba, qui est donc l'une des plus grandes tribus d'Afrique de l'Ouest et l'une des plus grandes tribus du Nigeria. Et donc elle est l'une des représentante de cette culture, et donc elle m'a fait rentrer dans cette culture, elle m'a fait découvrir cette culture, Et c'était merveilleux.
Parce que, donc, Françoise, quand les planètes s'alignent, elles font pas semblant. Cette femme, vous l'avez croisée aux rencontres d'Arles parce que vous avez repris la photo, que ça vous va plutôt bien. Il y a une exposition à venir cet été, c'est ça ?
Oui, c'est ça, en juillet-août à Paris, au Caveau des Oubliettes.
Au Caveau des Oubliettes, juillet-août à Paris. Mmh. Quelle place prend aujourd'hui la photo dans votre vie ?
Bah, malheureusement, pas assez. En fait, j'ai 7 ou 8 métiers différents et plus la photo. Donc, en fait, je suis très, très prise. Puis, j'en apprends un 9e, là, 9e métier. Donc, j'ai pas assez de temps pour la photo, mais j'ai l'espoir que ça va venir.
Et quelque part, vous êtes en train de faire ce que votre père vous avait pas permis de faire il y a des années de ça,
oui,
quand
c'est
vous
vrai,
vouliez
pas,
vous lancer.
J'avais pas pensé, oui.
Est-ce que c'est possible parce qu'aujourd'hui, il est plus là?
Non, parce que j'ai toujours gardé les métiers qui lui plairaient. J'interviens dans plein d'entreprises, des grandes boîtes. Je suis au board mondial de L'Oréal sur les questions de diversité,
équité, inclusion,
etc. Donc tout va bien.
Du côté du père,
il se retourne pas dans sa tombe.
Et alors voilà. Lui, quelle place il prend dans votre vie 8 ans après sa disparition?
Ben écoutez, il est présent de façon permanente. J'ai pas l'impression vraiment qu'il soit parti. Pour moi, ok, il est plus dans son enveloppe humaine, mais ça, c'est peut-être même plus facile, étonnamment, de communiquer et de rentrer en contact avec lui aujourd'hui, qu'il n'a plus les conventions de la société lui aussi, comme tout le monde. Comme
il
nous,
a fait un peu péter le corset
tous.
Lui aussi, quoi.
Ben, je pense qu'il était, il essayait de rentrer dans les cases de la société telle qu'on lui avait demandé de le faire, comme nous toutes et nous tous, et que aujourd'hui, ben, il est libéré de ça. Mmh. Et que du coup, il y a un esprit, une âme qui est plus pure et qui est plus facile pour moi.
C'est qu'avec vous, la mort n'est ni la fin de rien, ni le début de tout, c'est une continuité. Et pour l'éternité, elle a ce son-là.
Que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad, viento, que viene de la montaña, viento, tráenos la claridad.
Pour moi, c'est l'osmose. Avec la nature, en fait, ce chant d'Amérique latine qui célèbre la connexion avec les plantes, avec la nature.
Et c'est Quatro Vientos de David. Cette connexion-là, c'est ce qui vous permet d'avoir ce rapport si particulier avec la mort, avec la fin des choses?
Je ne sais pas. Je pense que ça y participe certainement, de comprendre que... enfin, de sentir, de conscientiser aussi que je ne suis qu'un petit élément dans cette immense nature et que la nature me survivra, bien entendu, et que ça n'a pas d'importance. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, après, il y a une spiritualité, il y a aussi une expérience de compréhension qu'en fait, il se passe des choses avant et après ce passage dans une enveloppe humaine.
Ce que vous nous laisserez de vous, c'est plus qu'un objet, c'est un regard. C'est le vôtre sur le monde qui nous entoure, tel que vous le voyez. C'est une photo. Vous l'avez amenée avec vous,
oui.
Je crois, l'un de vos tirages.
Voilà,
elle est là.
Est-ce
que vous pouvez nous la... Alors, c'est format, je décris un format carte postale, c'est en noir et blanc. Où on est? Décrivez-nous.
Alors, en fait, c'est des photos. Moi, quand je prends des photos, j'essaie de me mettre en connexion avec la nature. Je fais des photos de nature à ce moment-là. Et j'essaie de trouver la connexion avec la nature. Je sais pas très bien où je vais. Et tout à coup, il y a des choses qui cliquent, quelque chose qui se passe, quelque chose qui m'attire. J'arrive près de l'espace, j'arrive près de l'endroit. Et là, il y a un moment magique et je prends la photo.
Donc
en fait, mes photos, c'est un témoignage, en fait, d'un moment d'émerveillement dans la nature. Là, on est au bord de la Loire. Mmh. Il est 6h15 du matin, donc c'est au mois de mai. Il y a la Loire déborde, la Loire est en crue, et donc il y a le soleil qui se reflète dans la Loire, et donc c'est une série qui s'appelle Double Soleil.
C'est fou parce qu'on pourrait être pas loin du fleuve Niger, comme ça en noir et blanc, et à cette heure-là de la journée. Moi, je pensais que ça nous emmenait là-bas, vous voyez.
On peut être au bord du Niger, on peut être au bord du Gange, on peut être au bord de tout. On peut être partout. C'est des photos de méditation, en fait.
Ouais.
Où on rentre dans la photo, on rentre dans l'espace, on rentre dans la lumière, et on est bien.
On va se quitter sur cette image. Merci infiniment, Françoise Boullier, pour cette balade en marge.
Merci, Julia. Merci à vous aussi d'avoir écouté.
Merci à toutes, à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.